On va vous apprendre des choses, vous en faire comprendre. On va vous divertir, vous accompagner. On va vous faire rire, vous faire fâcher. FM 93, c'est de l'audace, c'est du mordant, c'est du professionnalisme. Le FM 93, c'est tout ça et plus encore. FM 93, ça me parle.
La voix, le midi.
Ici Myriam Segal. Trudeau a-t-il réussi à reprendre le contrôle de tout ce qui s'en va tout croche? Et by the way, s'excuse encore cet après-midi. Votre auto usagée est peut-être plus usagée que vous ne le pensez. Le royaume des aînés y était vendu avant de fermer brutalement. Le chat sort du sac. Et tout nu dans un vestiaire sportif, ça se fait de moins en moins.
FM 93, ça me parle. On développe les dossiers, les enjeux sociaux, la vie en général. FM 93, vous écoutez, Segal Lavoie, le midi.
Allô, Luc Lavoie.
Allô, Myriam.
T'es allé nous tromper à RDI ce matin, je vois ta cravate.
C'est ça, c'est ça, je m'en veux. J'espère qu'on n'aura pas une scène de ménage en ondes. On peut attendre après l'émission quand même.
Je t'ai entendu dire des affaires à José Legault que je pensais que tu disais rien qu'à moi, là, mais c'est pas grave.
C'est la preuve que je suis constant dans mes opinions. C'est d'abord toi qui m'inspire, Myriam, puis après je répands à tout vent.
Ce matin, Justin Trudeau a essayé de reprendre le contrôle de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant l'affaire SNC-Lavalin, qui lui a coûté deux ministres féminines et importantes.
Son bras droit.
Et plus son bras droit. Donc, il a perdu deux jambes et un bras. Est-ce qu'avec le bras qui lui restait, le gauche, il a réussi à ne pas être trop gauche, d'après toi?
Écoute, sa performance comme telle était bonne. Je l'ai déjà vu faire des moins bonnes performances que ça. Il est pas... c'était bien présenté. Il répondait relativement bien aux questions... Il avait choisi une attitude non belliqueuse et c'était très amusant qu'il se compare lui-même à son père en disant, vous savez, on a un style de leadership bien différent, lui et moi, parlant de son père. Évidemment, il faisait référence aux gens qui, comme Luc Lavoie, disaient qu'il fallait qu'il sac dehors les deux démissionnaires. Mmh. Alors, il a dit non. Moi, je les garde. Je suppose que si elles restent au caucus libéral, c'est parce qu'elles appuient notre politique qu'on poursuit à l'heure actuelle, blabla, bon... Il a admis, ceux qui pensaient qu'il allait s'excuser se sont totalement trompés. Il s'est excusé d'une seule chose. C'est ce qu'il a appelé la rupture de confiance entre son entourage à lui, le bureau du premier ministre, et le cabinet, ainsi que la ministre Wilson-Raybould. Et il dit, je regrette de ne pas m'en être mêlé directement moi-même.
C'est ça. Dans le fond, c'est de leur faute. La confiance s'est érodée entre mes proches et Mme Wilson-Raybould. Mais moi, je le savais pas. Mais je m'excuse pareil.
Je pense pas qu'il a employé le mot « je m'excuse ». Il garde ça pour plus tard aujourd'hui, ça.
Ah.
je trouve que c'est une bonne performance qui va contrebalancer un petit peu, pas beaucoup, un petit peu, les maladresses du début de la gestion de crise. Mais par ailleurs, le fait qu'il prend l'avion, immédiatement après cette conférence de presse et qui s'en va au Nunavut, je pense, pour s'excuser encore une fois. Je pense qu'il y a quelque chose que moi je saisis pas. Tout allait bien pour Justin Trudeau et son image jusqu'à son voyage ridicule en Inde. Ouais. À partir de ce moment, les gens ont commencé à le regarder d'un œil différent, à le trouver peut-être pas si... toujours aussi beau, mais peut-être pas si brillant que ça. Et... on a vu la popularité des libéraux vivre une érosion évidente à partir à peu près de ce moment-là. C'est pas depuis l'affaire SNC-Lavalin qui tombe dans les sondages.
Non, non.
Il y a quelque chose chez lui qui a commencé à taper sur les nerfs des gens. Entre autres, cette idée qu'on s'excuse à tout le monde pour toutes sortes d'affaires dont on n'est même pas au courant, pas sûr que c'est une bien bonne idée.
Il y a eu les...
Alors, je m'éloigne du sujet, mais tout...
Il y a eu les Autochtones, il y a eu les Inuits, il y a eu les Sikhs, il y a eu les Juifs, il y a eu les Japonais. Écoute, on n'en finit plus de la litanie des excuses. Et là, il retourne présenter des excuses qu'il a déjà présentées, parce qu'il s'est déjà excusé une fois, là.
J'espère qu'il va avoir le bon goût de contrôler la larme qui lui coule parfois dans les excuses-là. Donc, il retombe facilement et rapidement dans ses travers. C'est très, comment dire, moi je pense que ça va prendre 24 heures avant de comprendre l'effet réel de tout ça. Parce qu'à l'heure actuelle, je vais répéter ce que j'ai dit à la télé, moi je pense qu'on a atteint ce point de trop plein où ça va faire pout, pout, pout. Là, les gens, ils sont tannés, là, comprends-tu? Les théories sur la séparation des pouvoirs de Montesquieu, ouais, c'est pas le sujet du jour dans les chaumières canadiennes pendant que les gens sont en train de manger en famille. Et là, je pense qu'on commence à atteindre ce point où les médias, autant au Canada anglais qu'au Québec, ont été tellement, tellement, tellement loin que là, les gens disent, mais coudonc, le ciel n'est pas tombé sur la tête, là, tu sais, puis la vie continue, puis les problèmes qu'on avait sont encore là, puis ce qui va bien continue d'aller bien. Alors, qu'est-ce qui va en rester quand il va se présenter devant l'électorat? À voir. C'est pas si évident que ça.
Il y a un auditeur qui a une question pour toi. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça quand le Canada était pas tout debout? L'Ouest canadien, c'était très tôt. Le Québec, c'était vraiment en début de journée. Pourquoi il a choisi cette heure-là? C'était pas même prévu pour 7h45. À 7h45, il est 4h45 dans l'Ouest, là.
Mm-hmm. Je dirais pour deux raisons. D'abord, son voyage au Nunavut était très organisé. Il y avait toute une délégation qui l'attendait là-bas. Puis je pense qu'il était d'avis qu'il devait y aller compte tenu de l'organisation. Mais il y a une autre raison qui militait en faveur de le faire si tôt, c'est ce qu'on appelle, c'est l'expression est anglaise, le contrôle du news cycle, le cycle de l'information. Autrefois, le cycle de l'information, c'était un cycle de 24-36 heures.
Ouais.
Tu comprends? Maintenant, c'est un cycle qui se renouvelle aux demi-heures et à l'heure. Et quand tu veux occuper le terrain au complet, faut que tu fasses ta déclaration très tôt pour qu'elle continue à rouler toute la journée. Il va y avoir des réactions. Plusieurs seront négatives, mais vont réagir à ce que tu as dit. C'est ce qu'on appelle le contrôle, et c'est un anglicisme, mais c'est l'expression employée, le contrôle de l'agenda. Pendant 24 heures, là, même pas. Disons, pendant 12-13 heures, ce qui est exceptionnel, il va dominer les manchettes. Tout le monde va être en réaction à lui, et c'est ça qu'il souhaitait. Puis l'Ouest va se lever, puis ils vont voir quoi? Des reprises de ça, des extraits sonores de ça, ils vont l'entendre à la radio, ils vont entendre des commentaires, il y a des gens qui vont appeler dans des émissions comme la nôtre. Il va contrôler le message.
Est-ce que le message qui risque d'être mieux reçu dans l'Est qui lui est plus favorable, dans le fond, le message qui va passer vers l'Ouest, c'est celui du Québec et des Maritimes? C'est-tu ça, là?
Non, je pense pas.
C'est juste occuper
C'est juste que ce qui a été bien fait, faut donner à César ce qui revient à César. Je veux dire, ils ont mal géré ça depuis le début, mais à partir d'hier, on voit très bien qu'il y avait une concordance et une complémentarité entre l'intervention de Jerry Butt, son ancien bras droit, hier devant le comité parlementaire, et M. Trudeau aujourd'hui. Donc, ils ont mis carte sur table, ils ont expliqué que c'est vrai, là, ils voulaient l'accord de réparation, ils ont expliqué qu'ils auraient voulu avoir des avis d'experts, et là-dessus, je vais faire du coq à l'âne pour te dire, pour continuer de contrôler le message, faut s'attendre demain ou après-demain qui va annoncer les noms du comité d'experts qui veut mettre sur pied pour étudier diverses questions soulevées par cette controverse-là.
Okay.
Parce que quand il va sortir un communiqué puis que ça va dire, disons, Beverly McLaughlin, ancienne juge en chef de la Cour suprême du Canada, il va encore une fois occuper le devant de la scène. Alors, il essaie de reprendre le contrôle de l'agenda.
OK. Là, il va faire un comité d'experts parce que la grande question qui reste en suspens, c'est est-ce que la SNC-Lavalin peut être sauvée par un accord de réparation encore maintenant ou pas?
Et il y a ça, oui.
Dans l'opinion publique, il est à 50-50.
Mm-hmm.
Dans l'Ouest, c'est beaucoup plus proche du 60 que du 50. Au Québec, on est plus proche du 40 que du 50. Est-ce qu'il va oser, malgré Jody Wilson-Raybould, sauver SNC-Lavalin? Puis de quoi il va avoir l'air s'il le fait? Alors là, ce que je comprends, c'est qu'il forme un comité d'experts juridiques qui vont conseiller son ministre Lametti.
Il n'a pas dit juridique en passant, il a dit expert. Alors ça peut être un ancien premier ministre, ça peut être, je ne sais pas moi, mais certainement qu'il va avoir des cerveaux juridiques autour de la table dans ce comité d'experts, c'est sûr.
OK, parce que là, ce que je comprends, c'est que les poursuites vont être entamées par le DPCP.
Je pense que c'est supposé de procéder au printemps, ça, au mois de mai. Hein?
Ça commence à presser.
Ça sent bien vite, hein? Ça commence à être très, très bientôt. Mais effectivement, je suis convaincu que la décision là-dessus, elle n'est pas prise. Ils veulent voir ce qui va se passer. Ils veulent voir comment ça va tourner. Mais il a quand même insisté que tu pouvais littéralement changer d'idée quand tu es le procureur de la Couronne, ou la Couronne peut changer d'idée jusqu'à la fin du procès. Ils peuvent retirer les accusations en plein milieu d'un procès s'ils veulent.
Ça, c'est le grand argument qui a été utilisé par Bott, c'est qui, à mon avis, a le plus frappé, c'est que elle a beau dire que sa décision définitive était prise. En réalité,
il n'y a rien de définitif tant que c'est pas fini.
C'est ça. C'est comme Yogi Berra le disait. C'est pas fini tant que c'est pas fini.
C'est, voilà. Tant que la grosse madame n'a pas chanté.
Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas enlevé ses culottes courtes. Quelqu'un d'autre qui dit qu'il est insignifiant et vide comme personne, qui a dit plein d'affaires qui n'ont pas rapport pour noyer le sujet, notamment la référence à son père, là, qui a été ministre de la Justice, qui explique qu'il a autant de respect pour la fonction.
Faut qu'on,
moi, là, regarde, lâche Pierre-Éliott Trudeau, là. Soit Justin.
Oui, mais il voulait rappeler son appartenance à une quasi-dynastie politique comme il la conçoit lui-même. Et au fond, c'est tout le monde le sait, là. Si Justin Trudeau s'était appelé Justin Paquette, il serait pas premier ministre du Canada, là. C'est parce qu'il s'appelle Trudeau qui est là.
Oui, oui.
Et que le vieil establishment du parti l'a porté jusque là où il se trouve.
Et là, il t'a répondu, il a dit, il y en a qui pensent qu'un leader, c'est quelqu'un qui s'impose. Il dit, moi, comme leader, j'aime les gens qui écoutent, qui apprennent et qui ont de la compassion.
Ouais, je trouve ça un petit peu faible, en passant, ce bout-là. Là.
Désolé, c'est pas lui qui est en face de toi, là.
Parce que son père, il niaisait pas avec la POC, comme on dit par chez nous. Hein. Son père, quand il décidait qu'il réglait un problème, c'était pas des blagues, là.
Okay. Sophie dit, excusez-moi, je comprends toujours pas pourquoi il faudrait sauver SNC-Lavalin. Si votre fils travaillait chez SNC-Lavalin sur le boulevard Le Bourgneuf, pensez-vous qu'il mériterait de perdre sa job parce que des salauds ont corrompu cette compagnie-là?
Avec
la complicité, d'ailleurs, d'un conseil d'administration qui a joué l'autruche pas mal.
Oui, mais ils sont plus là.
Ils sont plus là.
Ils sont tous partis. Et sous la gouverne de pas celui qui est présentement en place, le PDG actuel, celui qui était là juste avant, qui était un Américain expert dans les questions de gouvernance et de déontologie, ils se sont imposés à eux-mêmes un code déontologique assez contraignant, merci. Alors pourquoi SNC-Lavalin devrait être sauvé? Je suis abasourdi d'encore entendre les gens me demander pourquoi. Je vais vous répondre bien simple. Mettons que le procès criminel procède, là. OK? Puis ça va durer, ce procès-là, là, pour au moins un an. Ça sera pas facile prouver les preuves, enfin, de démontrer devant la Cour que les preuves sont solides.
D'autant plus que la défense de Lavalin, ça va être ce sont mes dirigeants, puis je les poursuis. C'est de leur faute à eux autres.
C'est pas tout. Enfin, on verra, mais ce que je veux dire, c'est, disons qu'on laisse aller ça comme ça va, là, puis la SNC-Lavalin est trouvée coupable, là, ils vont faire faillite. Parce qu'ils peuvent plus aller sur des contrats publics au Canada, puis aucun contrat public où la Banque mondiale est impliquée, c'est-à-dire les plus gros contrats publics dans le tiers-monde et à l'extérieur. Ils vont faire faillite. Alors, le Trésor fédéral n'aura pas une scène, parce que c'est les créanciers qui vont se servir la main, puis les employés, puis tout ça. Et personne va aller en prison, parce que c'est une corporation, c'est une compagnie, c'est-à-dire que c'est une entité abstraite. Alors, personne va aller en prison, il n'y aura pas une scène de rembourser au gouvernement fédéral, puis on va avoir accompli quoi? Alors qu'avec un accord de réparation, d'abord, on ne retire pas les accusations, on les suspend, on impose à la compagnie des conditions très, très fermes, et dans le cas, et ce qu'on en sait de SNC-Lavalin, il était question de verser une amende de 250 à 300 millions de dollars, plus toute une série de conditions, et probablement une coordination vue de l'externe. Alors, le Trésor fédéral prendrait 250-300 millions. Ça, le Trésor fédéral, c'est toi et moi et la madame qui posait la question. On s'assurerait que la compagnie va maintenant être clean, propre, fonctionner selon des bonnes règles de gouvernance, et on sauverait des milliers d'emplois qui font partie de l'expertise québécoise bâtie à travers les décennies.
Des millions de dollars et des milliers d'emplois.
Absolument. Alors, je comprends
ce qui
pas
dérange les gens, c'est
question.
Que personne ne risque de payer pour la corruption profonde de cette institution-là.
Ben, c'est autre chose.
Ouais, mais c'est ça qui dérange. On s'entend que...
Oui, mais il faut que les gens comprennent. Je peux pas mettre une compagnie en prison. Pis si je la mets en faillite par mes poursuites, j'aurai même pas d'amende. J'aurai rien. Il va juste avoir des ruines après ça. Des gens qui ont plus de job, des contrats qui s'en vont dans des compagnies à l'étranger, cette magnifique expertise qu'on a bâtie. Écoute, Tu sais, SNC-Lavalin, là, bon, corruption, tout ça, je m'embarque pas là-dedans, là, on connaît les faits. Mais ils ont construit l'Eurotunnel, là. Mmh. Hein? Ils ont construit les plus grands barrages hydroélectriques de la Terre.
Ah ouais. Ils ont inventé la façon de faire du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine.
Ah, oui, tout à fait. C'est pas rien, là. On se débarrasserait de tout ça. Bye!
Luc, il y a une autre histoire qui m'interpelle pas mal. Une plainte en déontologie qui a été déposée par un manifestant professionnel, un prof de l'UQAM, là. Il a parfaitement le droit d'avoir les activités qu'il veut dans ses loisirs, là. Il était venu manifester contre le G7 et c'est, il faut reconnaître que il y avait plus de police que de manifestants, là. La police de Québec a fait, lors de ce sommet-là, une démonstration de puissance et de force qui a effectivement découragé les manifestants et qui nous a permis d'échapper au vandalisme qui accompagne, dans la plupart des grandes villes, les sommets de ce genre-là.
Oui.
Bon, le prof de l'UQAM, il a porté plainte, pas pour une arrestation, mais parce qu'il a vu, sur le véhicule utilisé par les policiers, alias le panier à salade, sur le panier à salade, il a vu une photo de Chuck Norris. En fait, c'est l'affiche d'un film où Chuck Norris défend les États-Unis contre l'invasion des communistes. OK? Ce que je comprends, c'est que la photo, elle était collée dans la vitre de la porte, mais avec...
Pour être vue de l'intérieur.
Pour être vue de l'intérieur. Sauf que les tatas, ils n'ont pas pensé que quand ils ont ouvert les deux portes vitrées, la photo s'est retrouvée vue de l'extérieur également. Si bien que là, lui, il porte plainte en disant que c'est de nature à inciter les policiers à abuser de leur pouvoir, à se sentir comme en guerre, que ça revient à menacer via Chuck Norris interposé les simples citoyens avec des mitraillettes et des bazookas et des lance-flammes, et que c'est très agressant.
Disons que c'est un peu spécial. notre manifestant professionnel, il a trouvé une bonne cause.
Ben, je pense que oui. Honnêtement, là, c'est niaiseux de la part de la police. D'abord,
ben, c'est très niaiseux.
Si tu veux que ce soit vu juste de l'intérieur, mais là, pas dans une vitre qui ouvre.
Effectivement.
Puis deuxièmement, même si c'était vu seulement de l'intérieur, là, c'est pas bon qu'un policier se fasse dire qu'il est comme Chuck Norris qui va affronter les communistes, là. Même de façon subliminale, c'est pas bon.
Mais ces gens-là, ils devaient se souvenir, je parle des policiers, oui, du sommet des Amériques, là, c'était quoi, 2000 ou 2001, ça?
Ah, c'était... Tu sais,
quand la ville de Québec était remplie de gaz lacrymogène, il y en avait tellement, ça avait plus de bon sens. Et les policiers avaient pas aimé ça, hein. Ils s'étaient fait bousculer, ils s'étaient fait traiter de tous les noms. Probablement que cette fois-ci, ils se sont pompés entre eux. Tu vois, ouais, cette année, ils nous feront pas niaiser. Mais ils ont été un petit peu trop loin.
Ben là, tu sais, je peux comprendre que il y a une pointe d'humour entre policiers, puis qu'on met cette affiche-là. La façon dont ils l'ont mise, d'abord, c'est niaiseux. Puis, deuxièmement, c'est quand même pas bon. Tu dois toujours penser ce que je fais dans ma fonction, là. Faut pas que les citoyens aient le moindre doute que je le fais pour le bien public.
T'as parfaitement raison, mais j'allais dire une chose. À choisir entre les manifestants professionnels qui sont de toutes les manifs à propos de tout et de rien, et les policiers, je vais pardonner aux policiers puis je vais aller de leur bord. Je suis tanné de ces manifestants-là, puis de leur bebelle, puis de leur affaire, là, les patentes à gosses.
Moi, je ne sais pas ce que la commission de déontologie va faire. D'abord, il va falloir prouver qui a mis l'affiche.
Ouais.
Bon, il y a 10 policiers impliqués. Ça me paraît être une grosse tempête dans un verre d'eau.
Ben oui, c'est ça.
Mais n'empêche que ce n'est pas bon que les policiers se fasse dire, ne fût-ce que de façon subliminale, envoie et fonce dans le tas, c'est rien que des salauds.
Ouais,
c'est pas bon.
Tout à fait.
C'est pas
non,
bon.
Non,
ça,
c'est pas bon. Ben non, c'est pas bon, Myriam, c'est... on est d'accord.
OK. Mais.
Mais si le monsieur de l'UQAM a de la grosse pépine, ça me j'en ai pas, moi.
Ben non. Tu sais bien que il y a une volonté. Il y a une volonté d'ébranler les policiers. Les policiers sont les ennemis du public pour ces gens-là.
Ben oui, c'est clair. C'est épouvantable. Puis les brutalités policières. Ouais. Quand ils lancent des balles de billard dans des vitrines de magasins, ça, c'est pas brutal. C'est bien ordinaire. Et quand ils en lancent par la tête des policiers, ça non plus, c'est pas brutal. C'est bien ordinaire.
Note que je pense pas que le prof de l'UQAM en soit un manifestant violent, là. D'ailleurs, il porte pas plainte contre l'arrestation à laquelle il a assisté. Il porte plainte contre l'affiche de Chuck Norris. Bon. Sauvons SNC-Lavalin. Luc a raison. Mes deux fils sont ingénieurs. Rappelons-nous la situation avant les années 70. C'est une société de New York qui a conçu le pont La Porte. Les Québécois n'en étaient pas capables. Après, ils en étaient capables.
C'est vrai, ça.
Si tu manifestes, attends-toi des claques sur la gueule. Non, ça, je suis pas d'accord avec vous, Jean-Pierre.
On a le droit de manifester.
On a parfaitement le droit de manifester dans une société civilisée.
C'est dans la Constitution. C'est dans la Charte.
Il faut manifester d'une manière civilisée également.
Et pacifique, oui.
Tu sais, tu traînes pas des boules de billard quand tu veux manifester de façon civilisée, mais tout citoyen a le droit de manifester.
C'est un droit fondamental.
Au sommet des Amériques, les policiers se sont gazés eux-mêmes. Ils n'ont pas pensé au vent en ce moment-là. C'est un peu comme, la porte du panier à salade. Ils n'ont pas pensé qu'elle était en vide et qu'elle virait. Il y a quelqu'un qui me dit, j'ai travaillé pour SNC-Lavalin. J'étais celui qui faisait des tests de sol pour des travaux importants. Et on me demandait de biaiser les résultats pour ne pas retarder les travaux. C'est ça, là.
J'aimerais en voir la preuve.
Ouais. Ouais. Chose que je n'ai jamais faite et encore moins endossée pour ne pas me retrouver avec des problèmes. Ouais. Mais il dit, quand vous voulez monter, vous devez suivre la vague.
Oui, mais je veux dire, là, ça, des accusations comme ça, écoute, non.
J'ai déjà rencontré quelqu'un qui m'a déjà dit, il ne travaille pas, il n'est pas pour SNC-Lavalin, mais son patron lui a dit, regarde, notre client ne nous paye pas pour se faire dire qu'il y a un problème, il nous paye pour se faire dire qu'il n'y en a pas.
Oui, c'est ça.
Ben oui, mais quand les tests...
Ben là, mais la gestion de la relation entre un client puis son consultant, parce qu'un ingénieur, c'est ça que ça fait, c'est de la consultation, c'est toujours une affaire un peu particulière et très, très humaine.
OK, il est 11h21, on va faire une petite pause, et puis ensuite, il paraît que ton auto pourrait être plus usagée que tu ne crois.